Bonjour, Marco, compte à rebours. Oui, enfin, encore compte à rebours, une émission d'histoire, de contes, de légendes. Et ben, comme la semaine dernière, on continue avec un livre d'Henri Gougo dont j'ai extrait quelques histoires qui s'appelle « Les voyageurs de l'aube ». Et tiens, je cite pour introduction Khalil Gibran qu'on trouve en début de ce livre avec cette phrase « Nul ne peut atteindre l'aube qu'en passant par le chemin de la nuit ». Ce fut il y a combien de lunes, combien d'années, je ne sais pas. Le désert était ce qu'il est. Le temps chez lui ne passe pas, ne vieillit pas. Il veille, il règne. Ce jour-là, deux errants, nommés Hakim le Borgne et Mokhtar, fils d'Ali le Fier, les yeux embrumés de vertige, regardent s'approcher la mort, pieds nus dans l'océan de sable. Ils sont à bout de force, à bout d'espoir, perdus. Plus une seule goutte dans la gourde, plus un croûton au fond du sac. Le soir vient. Silence des dunes, de l'air immobile du ciel. Il trébuche, il tombe à genoux. À quoi bon parler? Tous deux savent qu'ils ne verront pas le matin. Le fond de l'Est rougeoie, s'embrase, s'obscurcit. Hakim veut prier, il ne peut pas. Sa tête penchée s'abandonne sur sa poitrine. Il est en paix. Mokhtar cherche Dieu alentour ou quelque bête comestible. Il sursaute soudain, écarquille les yeux, les frotte et regarde à nouveau. Pousse son compagnon du coude dans l'index, là-bas, dans le noir. Une lumière. Une maison. Elle n'est guère éloignée. Comment est-il possible qu'il ne l'ait pas vue tout à l'heure quand il faisait encore jour? Il se dresse, debout, sans quitter du regard cette lueur dans les ténèbres, comme s'il craignait qu'elle s'efface au moindre coup d'œil à côté. Il court, tombe, se relève, il court encore, la voici. Sa porte est grande ouverte. Il devine dedans des lueurs de vie simple. Un homme est là qui les attend plantés sur la pierre du seuil, un vieillard de belle vigueur, à la barbe majestueuse. Il lève sa lanterne, éclaire les perdus, les invite à entrer. Les autres éberlués le suivent. Coup d'œil béat aux murs blanchis, aux plafonds bas, aux meubles rares, aux longs bâtons de voyageurs pendus à côté d'un manteau. Sous la lampe à huile, une table où fume une soupière au parfum délicieux. Leur hôte emplit les écuelles. Mangez, buvez, vous m'avez l'air bien fatigué. Les deux errants, la bouche pleine, bafouillent des bénédictions et dévorent, débordent, rôtent. Le vieillard, debout auprès d'eux, les regarde, l'air amusé par leur goinfrerie débridée. Il leur dit « Un jour d'ici est le village de Djebil. Vous y serez demain avant le soir tombé pour peu que vous partiez à l'aube. Mais pour l'heure, mes bons amis, il est temps d'aller vous coucher. » Au fond de la salle commune est une porte ornée d'un soleil rayonnant et d'une lune peinte en or. Hakim et Mokhtar la caressent du bout du doigt, émerveillés. L'homme les invite à entrer. « Voici votre chambre. » Grand lit moelleux, tapis qui sentent bon la laine, ils se laissent choir à plat ventre sur les édredons rebondis, ils embrassent leurs oreillers. Avant même que le vieillard ait porté dehors sa bougie, ils dorment comme des enfants. Le lendemain matin, un rayon de soleil est entré par un volet fendu et vient leur agacer la figure. Ils se réveillent, ébouriffés, encore empêtrés de sommeil, se grattent le crâne, se lèvent. Le maître de maison est là, qui les attend et les accueille dans la salle où ils ont dîné. Il leur souhaite un bonjour sonore, les invite à goûter son thé, ses dattes, ses oranges fraîches. Ils déjeunent, gourmands de tout, soupirent d'aise, remercient. Il est temps de prendre congé. Il serre les mains du vieillard avec une émotion joyeuse, lui rend encore mille grâces et s'en vont dans le matin frais. À peine ont-ils fait 200 pas parmi des touffes d'épineux qu'ils aperçoivent au loin un berger à l'affût derrière son bâton. Regard minutieux, aiguisé, bouche courbe, rides recuites. Il sort de son troupeau et vient à leur rencontre. Et dès qu'ils sont à portée de voix, il se plante là et leur lance dans un grand sourire édenté « D'où venez-vous donc, voyageurs ?»« De loin, brave homme, du désert. »« Quoi ? Les pieds nus et sans bagages ?» Les autres rient. Il s'ébahit. « Quelle farce me jouez-vous ? Le seul trou d'eau derrière vous est à 10 jours de chevauchée. » Et je vous vois aussi dispos que 2 sultans en promenade. Ou vous avez traversé l'air pendu à la barbe d'un djinn, ou alors mes yeux vous inventent. » Mokhtar lui répond, « Eh, c'est toi qui te moques. Nous avons dormi cette nuit chez un vieillard inoubliable. Il nous a nourris et logés, il nous a rendus à la vie. Tu le connais assurément, sa maison est là, toute proche. » Quelle maison ? Grommelle l'autre. « Prétends-tu, étranger, m'apprendre mon pays ? De mémoire d'homme ou d'oiseau, il n'y en a jamais eu ici, ni nulle part avant Djébil. » Hakim et Mokhtar se retournent et restent les mains sur les joues, bouche ouverte, pétrifiée. Le logis au mur blanc qu'ils viennent de quitter n'est plus là, sous le ciel tranquille. Jusqu'à l'horizon bleu où tremble la chaleur, rien. Les dunes, le sable nu, pas la moindre trace de vie. Au soir de ce jour au village, ils comptent ce qu'ils ont vécu. Devant les badauds ébahis, ils supplient les gens de leur dire qui les a sauvés de la mort et nourris de soupe et de fruits. Certains s'extasient, d'autres pleurent. Certains se taisent ou parlent trop. Le lendemain, Hakim le borgne reprend son chemin infini. Mokhtar ne part pas avec lui. Il reste assis, muet sous l'arbre de la place. De longs jours, il demeure ainsi, sans répondre à ceux qui s'inquiètent de ses yeux fixes et des idées qui semble ronger son esprit. Puis, un matin, comme une femme dépose du pain près de lui, il dit « Je sais ce que je dois. Cette maison inexistante qui, pourtant, m'a donné la vie 34 ans après ma mère, je la bâtirai, pierre à pierre, à l'endroit même où je l'ai vue. Je veux qu'elle soit pour les errants ce qu'elle fut pour nous, pauvre diable. Une lumière dans la nuit, une présence où n'est personne, un refuge pour ceux qui n'ont jamais prié et qui n'espèrent aucun salut, ni dans ce monde, ni dans l'autre. » Mokhtar a fait ce qu'il a dit. Il a veillé 18 années dans cette demeure où nous sommes, car ici même exactement est le lieu où Hakim le Borgne et Mokhtar, fils d'Ali le Fier, ont vécu leur nuit sans pareil. Après la mort du bâtisseur est venu Youssouf El Ansar. Après Youssouf, d'autres encore qui sont aujourd'hui oubliés. Il s'est toujours trouvé un homme pour garder en vie ses vieux murs et pour allumer une lampe à sa lucarne chaque nuit. Sachez-le, vous qui m'écoutez, il n'est pas un caravanier dans ce vaste pays des sables qui ne connaisse cette histoire que je viens de vous raconter. D'où qu'il vienne, il n'en est pas un qui ne s'écarte de sa route pour faire du bien à son cœur et passer un jour de silence au plus près de cette maison qui sauva deux vies vagabondes avant même d'être bâtie. La femme dans l'arbre. Deux frères vivent au thé de rien, dans un village de montagne, au bord d'un chemin, fatigué à force de grimper aux cimes où n'étaient que loups et corbeaux. L'un habitait une maison à la toiture pleurnicharde, et l'autre la même, à côté. Deux cuisines puant le gras, deux lits boiteux, deux bougies tristes, et chez aucun des pauvres d'eux, pas d'épouse, de bon matin pour jeter les volets dehors. Ils auraient pu mourir ainsi sans même se dire bonsoir si le cadet, un beau jour bleu, n'était sorti dans son jardin en oubliant sa tête au lit. Il buta contre un roc planté parmi les ronces depuis la naissance du temps. Il en resta tout étourdi. Il était tant habitué à sa présence quotidienne que son œil lui passait d'ordinaire au travers sans s'attarder sur sa grisaille. Pour le coup, il le remarqua. Il lui dit « Oh, excuse-moi ». Pouvoir se créer de l'attention, elle change le regard, l'objet et la palpitation des sens. Il vit à ce rocher un corps, une figure. Elle s'en étonna. Il pensa « Peut-être bien suffirait-il de le dégrossir quelque peu pour faire de lui une femme ». Une femme, Seigneur. Ce mot seul alluma de son crâne à son ventre un feu d'artifice imprévu. Son cœur partit au grand galop, les couleurs du jour s'avivèrent, les arbres lui dirent bonjour, les oiseaux filèrent en riant annoncer la nouvelle aux nuages passants. Il se mit à l'œuvre aussitôt, cisela tout au long du jour, affina, arrondit, polit, là une épaule, un bras, un ventre doux. Et tes cuisses, dis-moi, sont-elles assez charnues? Et ton visage, qu'il est beau! Il lui parlait ainsi, tandis qu'il s'échinait à tailler, affiner, parfaire, vers le soir. Il n'en pouvait plus. Il laissa tomber ses outils, épongea son front, recula pour mieux contempler son ouvrage. Elle n'est pas vivante, mais presque. Il s'en faut d'un rien. Son frère arriva, s'ébahit. D'où nous viennent-elles?
Du rocher.
Oh, laisse-moi la caresser. Ne lui manque qu'un souffle, une âme. Ôte tes doigts, ils sont crasseux, c'est moi qui les fais, elle est mienne. L'autre ne voulut pas l'entendre. Il prit dans ses bras la statue, posa les lèvres sur sa bouche, et comme il la priait d'amour, miracle, elle respira, ouvrit les yeux au monde et sourit à l'air alentour. Ma bienfaisante, mon épouse m'a tout aimé, dit le sculpteur. Elle s'agenouilla devant elle, extasiée, les bras ouverts. Oh là, du calme, gronda l'autre. Il l'empoigna par la chemise et le poussa dans un buisson. Tu l'as fabriquée comme elle est, grand merci, et que Dieu te la garde. Mais qui lui a donné vie? Moi seul, ton grand frère, elle est mienne. Oh, 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 voleur fainéant, fou triste, rugit l'autre, hors de chez moi, ouste dehors, même des yeux, je t'interdis de la toucher. Et ce défi de l'épineux lui lança un coup de pied d'âne. Retourne donc à ton gourbi, assieds-toi devant ta marmite et pèle les oignons moisis de ta soupe célibataire. Moi, j'ai ma noce à préparer. L'aîné resta planté et risqua, magnanime, il serait peut-être correct de lui demander son avis. Il lissa ses cheveux d'un crachat dans la main et vint au bout des seins de la belle vivante. « Madame, j'ai 40 sous et je me lave tous les jours. Choisis-moi, tu fais une affaire. » « Ne l'écoute pas, dit son frère, je t'offre moi une maison, du linge à laver, du ménage et mon amour, grand comme un lit. » À l'un et à l'autre, elle sourit, mais eut l'air de ne rien comprendre à leurs étranges plaidoiries. « Bonjour, beauté, dit un vieil homme qui passait là sur le chemin. Il avait un sac à l'épaule, un long bâton de pèlerin, une barbe de philosophe et un œil qui s'amusait bien. « C'est ma femme, dit le cadet. Non, la mienne, beugla l'aîné. » Ils lui contèrent leur journée. Réveil, rocher, travaux, prodiges, vie nouvelle et disputes autour. Intéressant, dit le bonhomme. Venez donc, bel enfant, et vous aussi les hommes. Je connais un juge là-haut qui saura dédouaner l'affaire. Je vais le voir de temps en temps, quand la mort chatouille mes os. Il remit son bâton en route. Et les trois cheminèrent derrière son chapeau troué. Thank you. Ils marchèrent toute la nuit. Elle fut courte, c'était l'été. Alors, au bout de la forêt, ils virent un arbre illuminé par les feux du matin naissant. Il était le dernier d'en bas et le premier au bord du ciel. « Bonté de Dieu !» gémit l'aîné. Et le cadet, « Parle plus bas, je sens mon échine qui flanche. »« C'est l'arbre de vie !» dit le vieux. Et s'approchant de lui, « Père, la paix sur toi. Inutile que je t'informe, tu sais tous deux, et d'elle aussi. Fais selon ton cœur. Je me tais. » Il prit la femme par la main et l'amena sous le feuillage. Alors, le tronc s'émut. Il frémit. Il s'ouvrit. Elle entra dans sa nuit. Il se ferma sur elle. Les hommes, les mains sur les joues, en restèrent à la bouche ouverte et débordantes de questions aussi urgentes qu'indicibles. Le vieil Iran s'assit à l'ombre, défit son sac, déjeuna de fromage et de pain rassis. Les deux frères disputent ailleurs. Ce qu'il advint d'eux, je l'ignore. L'histoire ne va pas plus loin, et donc moi non plus, brave Jean. Elle me demeure mystérieuse. C'est pourquoi j'en suis amoureux. Je l'ai raconté toute nue, que chacun l'habille à son goût. Buvons maintenant à nos rêves et aux bontés de l'avenir. Et voilà, Compte à rebours est terminé. Des histoires d'Henri Gougo aujourd'hui. Eh bien, on se retrouvera sans doute la semaine prochaine. C'était Marco, je vous dis merci, portez-vous bien. À la semaine prochaine.